Bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes prêts pour une généalogie. Alors quand j'ai vu le passage, je me suis dit, oula, je ne sais pas comment je vais faire. Et par la grâce de Dieu, j'ai des choses que j'aimerais vous transmettre ce matin. C'est à cet Aaron-là et à ce Moïse-là que Dieu donna cet ordre. Pourquoi cet Aaron-là et pourquoi ce Moïse-là? Pourquoi parmi toutes ces personnes, Dieu a choisi ces personnes-là? Qui est-ce que Dieu choisit pour travailler avec lui? Est-ce qu'il choisit des personnes qui ont un CV en or? Est-ce que Dieu choisit des personnes qui ont des compétences extraordinaires? Ou est-ce que Dieu choisit des personnes comme vous et moi? Quels sont les critères de Dieu? Pourquoi Dieu a choisi Moïse et Aaron? Et alors j'aimerais juste répondre à cette question. Pourquoi est-ce que Dieu choisit des hommes comme eux? J'aimerais vous dire, ces hommes-là, Moïse et Aaron, c'était comme vous et moi, des personnes cabossées par le péché, mais malgré tout, Dieu les choisit. Pourquoi Dieu fait cela? Est-ce que Dieu n'aurait pas une autre manière de sauver son peuple? Pourquoi faire appel à ceux qui apparemment n'ont rien à apporter? Des gens cabossés comme Moïse et Aaron. Alors on va voir dans une première partie, à partir de ce texte, à quel point Moïse et Aaron n'avaient rien pour eux. Et dans une deuxième partie, on verra que Dieu le fait pour sa gloire. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment est-ce que nous pouvons, malgré le fait que nous soyons nous aussi cabossés par le péché, coopérer avec lui dans ce but. Alors j'aimerais vous montrer qu'effectivement, Moïse et Aaron, ce n'étaient pas les premiers choix. Ce n'étaient pas ceux sur qui on aurait pu parier. Et je vais vous citer 6 points dans ce texte qui montrent que ce n'étaient pas les premiers choix. 6 points. 3 qui ont un rapport avec leur arrière-plan familial, et 3 qui ont un rapport avec les conséquences de Moïse, enfin les compétences de Moïse. Première chose pour lesquelles ce n'était pas les bonnes personnes, ce n'était pas le fils aîné. Dans la tradition de l'époque, seul le fils aîné était héritier. C'était lui qui devait reprendre le flambeau de la famille, hériter de toutes les possessions et transmettre les choses et prendre la tête de la famille. Or, nous voyons dans cette généalogie qu'ici, Ruben était l'aîné et Lévi avait encore un grand frère qui était Siméon. Lévi, le troisième fils. Donc Moïse, les descendants de Lévi, ne sont pas les aînés. Du droit d'aînesse, ils sont disqualifiés. Première chose. Deuxième chose, il était maudit. Nous voyons que leur ancêtre avait rassemblé à la fin de sa vie, Jacob avait rassemblé à la fin de sa vie ses enfants autour de son lit de mourant. Et donc, imaginez, il est à la fin de sa vie, il va mourir, il appelle ses 12 enfants et pour leur dire ce qui va se passer, pour leur énoncer des bénédictions ou des malédictions. Il appelle son aîné, Ruben, il lui dit, « Ruben, toi, mon aîné, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. » Ruben, disqualifié, tu es maudit. Et puis il invite Siméon et Lévi, les deux frères suivants, et leur dit, leurs épées sont des instruments de violence. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Lévi et Siméon sont tout autant maudits. Donc, Lévi n'est pas l'aîné, Lévi est maudit. Et troisième chose qui disqualifie les descendants de Lévi, Moïse et Aaron, ils sont le fruit d'une union impure. On voit au verset 20 de cette généalogie, Aram prit pour femme sa tante Jochébed et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. Amram prit sa tante pour femme Jochébed. Et Moïse, quand il l'écrit, il le sait. Les Israélites qui lisent le savent, c'est une union impure. On voit dans Lévitique 18 les lois qu'il donne. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, ta tante. C'est la proche parente de ton père. Autrement dit, si on prend l'arrière-plan familial de Moïse et Aaron, ils n'avaient aucune raison d'être choisis. Ce ne sont pas les fils aînés. Ils sont maudits par leurs ancêtres. Et ce sont les fruits d'une union impure. Et en quatrième chose, du point de vue des compétences, Moïse a une vie marquée par l'échec. On pourrait dire qu'il n'a pas réussi grand-chose. Il a essayé 40 ans en arrière de sauver son peuple, il s'est foiré. Et là, à l'instant, chapitre 5 et 6, il a à nouveau essayé devant le pharaon de faire sauter son peuple et il s'est encore planté. Autrement dit, voilà, du point de vue du pédigré et du CV, il est mal barré. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, il est plein de doutes. Ce passage, cette généalogie, fait une pause dans le récit. Moïse a essayé de... Voilà, on voit comment il amène le peuple à sortir. Et à ce moment-là, on est au point mort. Il n'y a rien qui se passe. Et Moïse est là et il répète. Il met, comme entre parenthèses, cette généalogie, ce discours. Il dit, au verset 12, Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment est-ce que le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Il le répète et il finit sa généalogie, encore une fois avec cette même phrase. Au verset 30, Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il ?» Donc, Moïse est plein de doutes. Il remet en question les promesses et ce qu'avait dit l'Éternel. Il remet en avant ses faiblesses. Il a les yeux fixés sur ses faiblesses, alors que il a vu les signes. Il a Aaron pour l'aider. Il a les promesses de Dieu qui lui a dit, c'est normal si le Pharaon ne va pas t'écouter. Malgré cela, Moïse doute encore. Donc, du point de vue du caractère, il y a aussi des choses qui clochent. Et dernier point, sixième point pour lequel Moïse semble disqualifié, il est désobéissant. Qu'est-ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron de faire? On voit au verset 28 de ce passage, 6 verset 28, lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Sa mission était simple, répéter, récapituler, répéter ce que l'Éternel lui disait. Est-ce que Moïse a répété? On va reprendre du chapitre 3, ce que l'Éternel avait ordonné, l'ordre, et on va voir au chapitre 5 ce que Moïse et Aaron ont fait. Essayez d'écouter et de voir les différences. Chapitre 3, verset 18. « Tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Ça, c'était l'ordre. Et voici ce que Moïse et Aaron ont fait. Exode 5, versets 1 à 4. Moïse et Aaron, je ne sais pas où sont les anciens d'Israël, allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Est-ce que Moïse et Aaron ont répété mot pour mot ce que l'Éternel leur avait ordonné de dire? Y sont-ils allés avec les anciens d'Israël? Ils n'ont pas complètement obéi. Et on voit que, visiblement, ils avaient peur du Pharaon. Ils mettent une condition pour l'exaucement et de cette requête. Sinon, l'Éternel va nous frapper de la peste ou de l'épée. L'Éternel avait juste dit, répétez mot pour mot ce que je vous dirai. Et Moïse et Aaron ont rajouté quelque chose. Donc on voit ces 6 points. Du point de vue de l'arrière-plan familial, Moïse et Lévi, ils n'ont rien pour eux. Ce ne sont pas les fils aînés, ils sont maudits et ils sont les fils ou les descendants d'une union interdite. Et du point de vue des compétences, Moïse et Aaron n'ont pas grand-chose pour eux non plus. Moïse s'est planté 2 fois. Il n'arrête pas de rater. Il a peur, il est plein de doutes. Je n'ai pas la parole facile, pourquoi tu m'envoies? Et troisièmement, il a désobéi. Visiblement, il n'obéit pas complètement à ce que Dieu lui ordonne. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu choisit des personnes imparfaites pour accomplir ce grand œuvre de salut? Et la question se pose pour nous aussi et pour moi. Pourquoi Dieu me choisit, moi, qui suis bien loin d'être parfait et qui ne mérite en aucun cas ma place ici, que ce soit d'un point de vue d'un arrière-plan familial ou des compétences, pourquoi Dieu choisit de travailler avec des hommes imparfaits? Et j'aimerais répondre dans cette deuxième partie que Dieu choisit de travailler avec des hommes imparfaits, tout simplement, et c'est pas si simple, pour montrer qu'il est un Dieu super, incroyable et éblouissant pour sa gloire. Pour sa gloire. Alors, avant de montrer pourquoi on voit ça dans ce livre, j'aimerais juste poser la question, est-ce qu'il a vraiment le choix? Est-ce que Dieu a vraiment le choix de travailler avec des hommes imparfaits? On pourrait se poser la question. Si jamais aujourd'hui vous avez décidé de venir à l'église en vélib, vous avez essayé de prendre un vélo et vous arrivez devant le parking de vélo et tous les vélos sont complètement cabossés. Il n'y en a pas un qui roule droit. Est-ce que vous avez vraiment choisi de plein gré un vélo imparfait? Vous avez choisi par dépit, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous en avez choisi un, pas bon, au lieu d'un autre, mais quelque part, vous n'avez pas vraiment le choix. Et est-ce que Dieu est aussi comme ça? Est-ce que Dieu n'a pas le choix? Est-ce que Dieu, quelque part, il aurait besoin de prendre un vélo pour venir ici et il est obligé de choisir un vélo imparfait parce qu'il n'y a que des vélos imparfaits? Parce que c'est ce que la Bible dit. Je suis cabossé, Moïse est cabossé, Abraham, Saül, David, tous les hommes qui ont voulu cette terre et qui ont été utilisés par Dieu, vous et moi sommes cabossés. Alors est-ce que Dieu n'a pas le choix? Dieu a le choix. Dieu a le choix de nous utiliser ou pas. Il pourrait choisir de faire sans nous. Le Dieu qui a fondé par sa parole le sol même de cette pièce, le Dieu qui soutient l'oxygène dans cette pièce, qui nous permet de respirer, d'écouter, de vivre, ce Dieu-là pourrait en un claquement de doigts retirer cet oxygène. Ce Dieu-là aurait pu, en un claquement de doigts, retirer l'oxygène du poumon des Égyptiens et c'était fini. Il avait libéré son peuple. Pourquoi alors est-ce que Dieu, s'il a une autre option, utilise des outils imparfaits? Pourquoi est-ce que Dieu m'utilise alors qu'à l'instant, il pourrait prendre sa main et écrire ce qu'il a envie de vous dire sur ce mur? Ou directement l'écrire sur votre cœur? Pourquoi est-ce que Dieu utilise quelqu'un comme moi? Dieu le fait pour sa gloire. Une image pour illustrer pourquoi Dieu le fait pour sa gloire. Et ensuite, j'aimerais prendre trois fondements dans la parole qui le montre. Imaginez que un cavalier qui doit faire une course de chevaux, on l'invite à rentrer dans l'écurie et on lui dit « tu peux choisir ». Il y a deux chevaux dans l'écurie. Le premier est un magnifique étalon, pur sang arabe. C'est une vraie flèche. Tu peux choisir ce cheval parfait. Ou alors, tu peux choisir le vieux canasson têtu qui n'écoute pas son cavalier. Si jamais ce cavalier choisit le magnifique étalon et gagne la course, personne n'est surpris. Bien sûr qu'il a gagné la course. Il avait le cheval le plus rapide. Mais si jamais ce cavalier prend le vieux canasson têtu qui n'écoute rien et malgré tout gagne la course, c'est un miracle. C'est un miracle. Ce cavalier-là est un génie. Il a pris le cheval sur lequel on n'aurait jamais pu parier et il a gagné la course. En utilisant et en travaillant avec des hommes imparfaits, Dieu montre à quel point il a compassion de nos imperfections et malgré tout cela n'empêche rien sa puissance de se manifester et de briller dans le monde. Donc voilà l'image pour illustrer. Dieu a le choix, il choisit pour se glorifier et on le voit dans ce livre de trois manières. Premièrement, il le dit à multiples reprises, il le dit à Moïse à la fin de ses discours. Je vous en cite un pour exemple. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et je ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, Exode 7, 5. Juste avant le déchaînement de la puissance et des grands signes de Dieu. Il le dit. Deuxième chose, il le montre. On le voit déjà dans ses premiers chapitres et par la suite. Dieu sauve Moïse de la noyade. Dieu le place dans la maison du Pharaon. Le Pharaon paye les études de celui qui sera utilisé, comme tous les lecteurs le savent, pour priver l'Égypte de tous ses esclaves et plonger son armée dans la mer. Moïse essaye de sauver les esclaves, il se plante. Il fuit dans le désert. Dieu le sauve une deuxième fois. Et lui donne une place bien au chaud à garder les moutons où il est en bonne santé. Puis Dieu l'attire à nouveau et lui donne la mission. Et Moïse retourne, se plante et se replaint encore devant Dieu. C'est le début de l'Exode. Qui est le héros là? Est-ce que Moïse est le héros? Moïse ne contrôle rien. Nous voyons par ces circonstances la main souveraine de Dieu. C'est celui qui montre sa gloire dans ses premiers chapitres par la manière dont il dirige tous les événements. Donc il le dit que c'est pour sa gloire. Il le montre que c'est pour sa gloire. Et troisièmement, nous le voyons dans cette généalogie, le but de ce livre est de se créer un royaume d'adorateurs, de gens qui glorifient Dieu. Nous voyons dans cette généalogie que le personnage principal, ce n'est pas Ruben, ce n'est pas Siméon, c'est les descendants de Lévi, et ce n'est pas Moïse, mais c'est Aaron et ses descendants. Verset 23, Aaron prit pour femme Elishéba, fille d'Aminadab et sœur de Nachon, et elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 24, fils de Corée, Assir, Elkana et Abiazaph, tels sont les clans des Coréites. On se rappelle des psaumes, il y a pas mal de psaumes qui sont des descendants de Corée. Verset 25, Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et lui donna pour fils Phiné. Tels sont les chefs des familles des Lévites avec leurs clans. On voit ici que la généalogie, elle ne descend pas jusqu'à Moïse. On n'entend pas parler de Moïse, de sa femme et de ses enfants, alors qu'il avait deux enfants dont on entend les noms plus tard. Ici, on entend les fils d'Aaron. Parce que Aaron était le premier grand prêtre, Éléazar, son enfant, le deuxième, et Phiné, le troisième. On voit ici que l'accent que Moïse met n'est pas sur qui il est, il met l'accent sur ses prêtres, sur ses systèmes de prêtres. Et dans cette première partie de l'Exode, juste avant le début des grands miracles de Dieu, on arrive à ce tournant où Dieu veut se libérer un peuple pour en faire un peuple d'adorateurs. Il ne veut pas juste se faire un peuple pour qu'il soit libre. Il l'est dit clairement dans Exode 6. Écoutez bien. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Quel est le rôle d'un prêtre ? Donner gloire à Dieu au travers d'un culte et des cérémonies. Et Dieu veut un royaume de prêtres. Dieu ne veut pas juste un peuple libre. Dieu ne veut pas juste un peuple qui sort dans la terre promise pour profiter des joies et des plaisirs de la terre promise. Il veut qu'il soit comme une loupe qui montre à quel point Dieu est super, incroyable et magnifique. Dieu veut libérer son peuple pour qu'il le loue. Et on voit donc que dans cet accent, cette partie de la généalogie qui met vraiment l'accent sur la prêtrise, sur les grands prêtres futurs à venir, que Moïse soutient et veut annoncer que Dieu veut se libérer un peuple de prêtres qui le louent et l'élèvent. Donc on voit que par ces trois choses, Dieu travaille avec des hommes infaillibles, il a le choix, il le fait, malgré le fait qu'il ait le choix. Pourquoi ? Pour sa gloire. Il le dit clairement, il le montre dans cette histoire. Et troisièmement, on le voit, il crée un peuple de prêtres pour l'adorer. Son but est clair, élever son nom, glorifier son nom. Alors si Dieu nous choisit des hommes imparfaits, et s'il pourrait faire différemment, il nous choisit pour montrer sa perfection, s'il pourrait faire différemment, comment pouvons-nous coopérer avec lui dans ce but ? Comment pouvons-nous coopérer avec lui dans ce but ? Si nous sommes des prêtres, et Pierre le dit dans 1 Pierre 2, nous sommes un royaume de prêtres. Il s'adresse à l'Église et nous sommes des prêtres. Aujourd'hui, nous sommes les prêtres de Dieu. Et il nous invite à travailler pour sa gloire. Et moi, je suis émerveillé quand je considère qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai fait. Je suis émerveillé de voir que, alors que Dieu pourrait faire autrement, il me prend, il me donne le rôle de prêtre pour glorifier son nom. Et je veux savoir comment est-ce qu'aujourd'hui je peux progresser encore dans ce rôle. Progresser encore dans ce rôle qui est non pas d'attirer la lumière, mais de la réfléchir vers Dieu et de montrer à quel point il est grand. Nous sommes une église de prêtres, un royaume de prêtres. Alors qu'est-ce que c'est un prêtre ? Pour savoir concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes un peu comme des fans. Nous cherchons à montrer à quel point l'acteur principal du film, il est incroyable. Et je ne sais pas si vous êtes fan d'une série, vous êtes fan d'un artiste, mais souvent quand on est fan de quelque chose, ça s'entend. On est là, waouh, cet épisode-là, c'était incroyable, l'acteur, comment il joue trop bien. Et quand on parle avec les gens, ils sentent là cette émotion, cette joie, et ils ont envie d'aller voir après ce que tu leur as raconté. Ils sentent que ça brûle en toi, tu es fan de ce film, tu es fan de cet acteur, tu es fan de cette chose. On porte les t-shirts, on a les stickers, on a les albums dans la voiture, on a tout ce qu'il faut, on est fan. Et un prêtre, c'est un peu ça. On vise à glorifier, à montrer à quel point ce qu'on adore, le Dieu qu'on est, il est grand, il est incroyable, il est beau, il est super. C'est ça. Et c'est ça qu'on aimerait faire, n'est-ce pas ? Alors, trois applications concrètes après avoir vu que oui, on est faillible, deux, mais Dieu nous choisit pour sa gloire. Troisièmement, comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, travailler pour sa gloire malgré nos imperfections ? Première chose, ne pas donner la gloire à un autre figurant. Dans le grand film de l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une seule grande superstar, et c'est Dieu et Jésus. Mais nous pourrions être tentés d'admirer un autre figurant. Les prêtres d'Israël l'ont fait. Dans Ézéchiel 8, Dieu invite Ézéchiel dans une vision à regarder par les trous du temple, dans les maisons, dans les chambres des prêtres, de percer un mur et de regarder ce que font les prêtres. Alors il a fait un trou, il a dit « Je suis entré » et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Nous sommes des prêtres de Dieu, mais malgré tout, dans nos chambres, Dieu sait quelles sont les idoles que nous aurons peut-être en cachette. De la même manière, quand nous sommes devant les gens, Dieu entend de quelle manière nous parlons des choses que nous aimons, de ces choses qui nous font vibrer. Quelles sont nos paroles qui montrent à quel point Dieu est grand et super ? Est-ce que ces paroles vont vers autre chose ? Qu'est-ce qu'on entend le plus dans nos paroles ? Quelle partie l'élève davantage que d'autres ? Donc, deuxièmement, premièrement, on pourrait donner la gloire à un autre figurant, à une idole, dans nos chambres, dans nos bouches, dans nos paroles. Le deuxième risque qu'il y a, c'est qu'on pourrait prendre la gloire pour nous. Et moi, je suis frappé par Moïse, parce que Moïse prend, on le voit, il fait attention à ne pas attirer la gloire sur lui. Il est le grand libérateur d'Israël, quelque part. C'est lui que Dieu a utilisé. Mais dans ce témoignage, dans cette généalogie, il montre bien qu'il y est pour rien. Il met en avant ses faiblesses et il met en avant la gloire de Dieu. Et moi, ça me donne envie, quand je parle de mon témoignage, quand je partage ce que fait Dieu dans ma vie, quand je parle de ma vie de manière quotidienne, quelle part est-ce que je mets à montrer à quel point peut-être Dieu pallie mes faiblesses ? Quelle portion est-ce que je mets, attention, je mets à montrer à quel point Dieu est agissant dans ma vie de tous les jours ? Ou est-ce que parfois j'essaie, par certains mots, d'attirer l'attention sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai réussi à faire, sur mes succès peut-être scolaires, mes succès professionnels ? Est-ce que j'essaie d'attirer l'attention sur moi ? Donc c'est la deuxième chose, le deuxième risque auquel il faut faire attention, prendre la gloire sur soi en tant que prêtre. Et j'aimerais finir et conclure sur cette troisième application. Moïse a marché avec Dieu et il est dit de lui qu'il était extrêmement humble et obéissant et dépendant. Je crois que c'est là une clé pour réussir dans la vie de tous les jours à glorifier Dieu, obéir et être dépendant. Moïse devait répéter, Moïse devait obéir, et malgré cette grande humilité, on voit qu'il a loupé le coche parfois, comme nous souvent. Mais nous avons un exemple. On a entendu dans les prières, nous avons un grand prêtre qui a parfaitement été prêtre, qui a parfaitement fait jouer ce rôle de rendre la gloire à Dieu. Et c'est Jésus. Et ce Jésus est notre exemple. Et Jésus le dit lui-même, en vérité, je vous le dis, en Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Il ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Rien de ce que Jésus n'a fait n'était indépendant. Il regardait toujours au Père pour le conduire et le guider. Et il a parfaitement, en tant que prêtre, joué ce rôle de rendre gloire à Dieu. Et ça me pousse, moi, ok, jour après jour, comment est-ce que je peux être dans la dépendance et l'obéissance ? Comment est-ce que je peux, chez moi, dans chaque action, chaque activité, jouer ce rôle de prêtre ? Comment est-ce que je peux, dans chaque parole, jouer ce rôle de prêtre ? Oui, on est des êtres imparfaits, je suis un orateur imparfait. Et malgré ça, Dieu, vous nous utilisez, toi, moi, chacun d'entre nous, malgré nos imperfections. Et montrez à quel point il est grand. Alors, cherchons de toutes nos forces à montrer à quel point il est grand, comme ces prêtres, comme cet Aaron, cet Éléazar, ce Phinéas, et Jésus qui l'a fait parfaitement. Jouons ce rôle de prêtre et cherchons à le faire à la perfection. Nous ne sommes pas les personnages principaux de l'histoire, il n'y en a qu'un seul, et c'est Dieu. Ne restons pas fixés sur nous-mêmes, comme Moïse, mais regardons à Dieu dans tout ce que nous faisons. J'ai prié. Père, tu vois cette prédication imparfaite. Tu vois cette oraison imparfaite. Mais Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux regarder à ta puissance. Je veux regarder à ta grandeur. Tu choisis de faire avec moi, avec nous, des hommes qui sont imparfaits, pour montrer à quel point, malgré cela, waouh, tu es un Dieu incroyable, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui aime, qui a compassion. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider jour après jour à réaliser ce rôle de prêtre, à pas nous centrer sur nous, mais à nous centrer sur toi et dans nos paroles, dans nos actions, à chercher à être ces fans qui jubilons de te connaître, qui jubilons d'être tes enfants et qui voulons partager ta gloire. Que cette parole, Seigneur, puisse rester dans nos cœurs pendant cette semaine. Et que, Seigneur, nous ne puissions nous souvenir uniquement que de toi, et de ta gloire et de ta grâce envers nous. À toi la gloire. Amen.